Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon lundi également, Marianne Paquette, pour vous accompagner au cours de ces 30 prochaines minutes et tout au long de cette semaine de C'est bon pour la santé sur Canal M. Eh bien, le printemps est arrivé pas plus tard que vendredi dernier. Certains diront plutôt timidement, mais tout de même là. Et c'était pour nous un excellent prétexte pour vous parler de l'organisme Jeune Pousse qui a comme mission la promotion de saines habitudes alimentaires auprès des jeunes et ce, par l'entremise de projets novateur, créatif. Il vise en fait à faire découvrir aux enfants l'origine des aliments et à développer leur goût. Et tout ça de façon toujours à être bien ancré dans la réalité des enfants. En deuxième partie d'émission, Geneviève Laroche sera là pour nous parler de ses différents programmes et de l'organisme Jeune Pousse. Mais d'abord, une nouvelle qui a fait pas mal jaser ces derniers temps, autant dans les médias que dans nos maisons. La vente d'alcool en poudre qui a été approuvée aux États-Unis il y a à peu près une dizaine de jours. Une situation jugée inquiétante par Éduc'alcool qui croit que ce produit pourrait avoir une incidence, entre autres, sur la consommation d'alcool des jeunes, mais aussi des gens qui vivent avec une dépendance à l'alcool. Pour nous en parler, Hubert Sassy, directeur général d'Éduc'alcool. Bonjour, Monsieur Sassy.
Bonjour.
Cette approbation de vendre de l'alcool en poudre, ça vous inquiète et sur différents volets, Monsieur Sassy.
Oui, en effet. Regardez, d'abord, il faut savoir que cette autorisation a été donnée par un organisme qui s'occupe de taxation et de commerce, qui n'a pas le moindre intérêt ni la moindre compétence en matière de santé, d'éducation, de prévention, etc. Et donc, c'était une décision purement commerciale par laquelle il a été décidé que, étant donné que l'alcool en liquide est un produit légal et qu'on peut en autoriser la vente, donc l'alcool en poudre est un produit légal et qu'on peut en autoriser la vente. Ils n'ont jamais été plus loin que ça. Cela dit, à partir du moment où cela est autorisé, il reste une chose à faire. Faire des mises en garde, expliquer ce que c'est, parce que ce produit va être vendu sur Internet. Mm-hmm. Et qu'à partir du moment où il est vendu sur Internet, ça veut dire qu'il va être accessible à tout le monde. Vous le savez, dès qu'on est sur le web, il n'existe plus de frontières, il n'existe plus de barrières. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons affaire à de l'alcool en liquide, il se trouve dans des bouteilles ou bien dans des caisses. Ça prend de la place et on est obligé, lorsqu'on l'importe de l'étranger, de recevoir une déclaration douanière qui indique qu'il y a de l'alcool dans ce produit. Dans ce cas-ci, à partir du moment où c'est un sachet et que c'est de la poudre, on peut mettre ça dans une enveloppe normale, mettre un timbre dessus et l'expédier par la poste habituelle et normale. Mm-hmm. Donc, notre crainte, notre appréhension est à l'effet que n'importe quel mineur va pouvoir acheter ce produit, se le faire livrer par la poste, sans le moindre contrôle, la moindre réserve. Et c'est dangereux parce que c'est pas pour rien que on ne permet pas aux jeunes d'acheter de l'alcool. Mm-hmm. C'est parce que ça a des conséquences. Par ailleurs, pour ce qui concerne les adultes, c'est sûr que si un adulte veut s'acheter de l'alcool en poudre, qu'il veut le consommer chez lui, personne n'a rien à dire là-dessus. Il a le droit. Il y a plein de monde qui aime plein de produits. Qu'ils soient bons et qu'ils soient mauvais, ça n'a pas d'importance. On n'est pas là pour discuter de la qualité des produits. On discute de leur mode de consommation. Mais dans notre pays, au Québec, nous avons décidé que l'alcool, lorsqu'il est consommé en public, devrait suivre un certain nombre de règles, même lorsque ce sont des adultes qui le consomment. Par exemple, lorsqu'il y a la fête nationale du Québec ou lorsqu'il y a des événements, des festivals, des concerts, lorsqu'on va dans un stade, lorsqu'on va dans une aréna, une patinoire, l'alcool doit être acheté sur place. Pourquoi ? Parce qu'il doit être vendu par des personnes qui sont des professionnels de la vente et qui ont l'obligation de cesser de servir des clients s'ils ont trop bu. Or, sur le site de la compagnie qui produit l'alcool en poudre, il est dit « vous pouvez le transporter n'importe où, n'importe comment, comme vous voulez ». Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire rentrer de l'alcool en poudre à l'intérieur des endroits où la vente est restreinte aux endroits officiels où on peut en acheter. Et ça veut dire que les gens vont pouvoir s'intoxiquer autant qu'ils veulent et qu'il n'y aura personne pour les empêcher de le faire. Là, vous allez me dire, c'est facile, la police n'a qu'à fouiller tout le monde. Vous imaginez quelqu'un aux plaines d'Abraham, le jour de la fête nationale, ou au parc Maisonneuve, le 24 juin, la police en train de fouiller 250 000 personnes pour voir s'ils n'ont pas de poudre sur eux. Ça n'a aucun sens, c'est évidemment absolument impossible. Et donc, nous, je le répète, ce n'est pas, c'est la façon dont le produit est mis sur le marché qui pose problème, c'est le fait qu'il soit accessible sur Internet et le fait qu'il soit en poudre. Et ça n'a rien à voir, bien sûr, avec le fait qu'il soit bon ou pas bon.
Oui.
Tous les goûts sont dans la nature.
Est-ce que l'on sait, est-ce que l'on connaît le procédé pour rendre cet alcool en poudre, Hubert Sassy?
Eh bien, malheureusement, non. On sait qu'en 1972, la compagnie General Foods avait développer un processus pour faire une poudre à partir d'un produit liquide. Ça n'a pas marché, ils ne l'ont pas utilisé. Donc, cette compagnie a dit qu'elle a trouvé un procédé pour le faire, mais sur son site web, elle indique, écoutez, on ne peut pas vous dire le procédé parce que si on vous le disait, on devrait vous tuer parce que c'est un produit breveté et que c'est un secret industriel. Donc, il faut croire sur parole que c'est bon. Maintenant, évidemment, ce produit-là, comme a peut-être subi des contrôles de la qualité aux États-Unis, mais certainement pas chez nous ici. Et par ailleurs, vous savez, sur le web, on peut vendre n'importe quoi. Si vous saviez le nombre de personnes qui achètent des médicaments, des soi-disant médicaments, sous prétexte que ce sont des médicaments, sur Internet, parce qu'ils pensent qu'ils économisent un peu d'argent avec ça, alors qu'en réalité, ils sont en train de s'auto-démolir, parce que ces produits-là, ça vaut vraiment rien. Mais ça, encore une fois, les gens qui veulent vivre dangereusement, c'est leur droit et c'est leur choix. Nous, ce que nous disons, c'est qu'on va protéger les adultes, on veut protéger les jeunes, les mineurs qui n'ont pas acheté et consommé d'alcool, et on veut protéger nos lieux publics sur lesquels ou dans lesquels il est interdit d'acheter de l'alcool, il est interdit de consommer de l'alcool qui n'est pas acheté sur place et vendu par des professionnels.
Moi, ce que je trouve inquiétant, M. Sassy, dans cette approbation de cette vente d'alcool en poudre aux États-Unis, c'est justement de ne pas savoir de quoi est constituée cette poudre. C'est-à-dire, on le sait, dans le cas de la drogue, ça peut être coupé avec plein de trucs plus ou moins toxiques et plutôt nocifs pour la santé. De ne pas savoir ce que l'on ingère, je trouve qu'il y a quelque chose de plutôt risqué là-dedans.
Oui, remarquez, d'un autre côté, à partir du moment où quelqu'un achète le produit, il peut l'envoyer dans un laboratoire, le faire examiner et découvrir ce qu'il y a dedans. Ça, ultimement, à l'extrême rigueur, on va finir par savoir à tout le moins ce qu'il contient. On ne connaîtra pas plus le procédé de fabrication, mais on saura ce qu'il contient. Et à partir de ce moment-là, évidemment, cette crainte que vous avez, maintenant, ça va arriver quand? Et combien de personnes vont s'être bousillées la santé avant? Ça, on n'en sait strictement rien. Et généralement, c'est vraiment important. C'est pas pour rien qu'on a des sociétés des alcools. C'est pas pour rien que même lorsque c'est vendu dans des épiceries ou des dépanneurs, on fait toujours extrêmement important de s'assurer que le contrôle de la qualité est là. Parce qu'il faut pas se rappeler, l'alcool, là, c'est pas quelque chose qu'on met sur la peau, là, c'est quelque chose qu'on ingère, qu'on met dans son estomac, qui rentre dans notre corps. Et par conséquent, évidemment, à partir du moment où on ingère un produit qui n'est pas parfaitement sécuritaire et sain, eh bien, on met sa santé en danger. Là, je ne veux pas faire peur au monde, puis je ne veux pas faire de bonhomme 7 heures. Je dis simplement qu'avant d'ingérer quelque chose, il est extrêmement important de savoir ce qu'on prend et aussi comment on le consomme.
Et si la vente légale serait permise au Canada, est-ce que ce serait rassurant pour vous que ce soit approuvé par la Société des alcools, approuvé ou plutôt géré par la Société des alcools du Québec?
À moitié. Et je vais vous dire pourquoi. À moitié parce qu'au moins la dimension contrôle de la qualité sera réglée. Si le laboratoire de contrôle de la qualité de la SAQ dit que c'est pas bon, ils ne le vendront pas. Bien, cet aspect-là, c'est valable. Par contre, qu'on achète le produit à la SAQ ou qu'on l'achète par Internet, on va pouvoir le faire rentrer en douce dans les lieux publics.
Ouais. Et dans les écoles. Hein?
Où que ce soit l'endroit où on va l'acheter, il est camouflable. Et à partir du moment où on peut camoufler un produit, on ne peut pas en surveiller la consommation, encore une fois, si c'était du jus d'orange et que les gens s'achetaient du jus d'orange en poudre, il n'y a aucun problème là-dessus parce que le jus d'orange, au pire des cas, il est dégueulasse, il n'est pas bon. Mais c'est tout, il ne peut pas nuire. Alors que là, nous avons affaire à de l'alcool. Et le troisième élément qui m'apparaît important, c'est que c'est de l'alcool en poudre. Or, l'alcool obéit à des critères très, très précis. Si vous avez du vin, il y a tant de degrés d'alcool dedans. Vous avez des spiritueux, il y a tant de degrés d'alcool dedans.
Ouais.
À partir du moment où vous avez une poudre, le degré d'alcool qu'il va y avoir dans le produit que vous allez boire, il va dépendre de la quantité d'eau que vous avez ajoutée à cet alcool. Autrement dit, si vous mettez beaucoup plus d'eau, vous allez baisser le taux d'alcool dans chaque gorgée. Mmh. Mais si vous mettez moins d'eau, vous allez renforcer le taux d'alcool dans chaque gorgée. Or, en matière d'alcool, aujourd'hui, lorsque l'alcool est liquide, tout ce que vous pouvez faire, c'est baisser son degré d'alcool en rajoutant de l'eau. Par contre, lorsque c'est un produit qui est en poudre, vous pouvez augmenter le niveau d'alcool dans le produit. Ce qu'on ne peut pas faire avec de l'alcool liquide. Donc, en toute honnêteté, c'est vraiment une très, 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 très mauvaise idée que cet alcool en poudre.
Et donc, on ne sait pas trop de c'est quoi la teneur en alcool de chaque sachet, parce que l'on sait que l'alcool en poudre sera vendu aux États-Unis en petits sachets, mais c'est impossible d'évaluer la teneur en alcool de chacun des sachets.
C'est-à-dire que sur chaque sachet, si l'on en croit ce que disent les fabricants, sur chaque sachet, il est indiqué, si vous ajoutez telle quantité d'eau, ça va donner de l'alcool à tel volume.
Mm-hmm.
Mais si on en met moins d'eau, ben, ça va augmenter le volume d'alcool.
Mm-hmm.
Alors, finalement, le volume de l'alcool ne dépend pas du manufacturier, il dépend de la personne qui le consomme, de l'état dans lequel elle est, de sa volonté de faire ou de ne pas faire un alcool plus fort ou plutôt moins fort.
Mm-hmm.
Il y a un autre tout petit élément, et encore une fois, là, je ne veux pas faire peur aux gens, mais la poudre, ça ne fait pas que se diluer. Ça peut aussi s'inhaler par le nez. Et paradoxalement, bien qu'aujourd'hui, ils s'en défendent énormément, les fabricants de ce produit-là avaient dit à l'époque sur leur site que si vous voulez avoir un peu de plaisir, vous pouvez peut-être essayer de l'inhaler. Donc le sniffer, passez-moi l'expression, même si ce n'est pas français. Or, avec le tollé que ça a provoqué lorsqu'ils ont indiqué cela, ils sont venus puis ils ont mis une grosse mise en garde en disant « Attention, ce n'est pas une bonne idée que d'inhaler ce produit.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous pensez que quelques jeunes adolescents vont faire en se faisant dire « Il est conseillé de ne pas inhaler le produit. »
Ben, peut-être faire
en
l'inverse.
En disant ça, ils sont en train de le dire que ça se fait, même s'ils le déconseillent. Je veux dire, quel que soit l'angle sous lequel on regarde la chose, il faut se dire que c'est vraiment pas l'idée du siècle.
Mm-hmm. On pourrait également avoir peur que certaines personnes décident d'en dissimuler dans le verre de d'autres personnes, parce que justement, c'est assez discret. Toutefois, on tente de nous rassurer en disant que la poudre prendra du temps à se dissoudre. Est-ce que c'est quelque chose, ça, qui vous rassure, Hubert Sassy?
Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que, précisons une chose. Tout le monde peut se faire verser n'importe quoi dans son verre quand il ne fait pas attention.
Oui.
On peut vous verser aussi de l'alcool liquide dans votre verre si vous ne faites pas attention. Donc, le grand conseil qu'on donne à tout le monde, c'est faites attention quand vous buvez de l'alcool, ben, surveillez votre verre, vous ne le laissez pas sans surveillance. Bien. Par ailleurs, après ça, c'est un produit alcoolisé, mais on peut verser de l'alcool dans la poudre alcoolisée. Ce qui fait qu'on vient de multiplier par je ne sais plus combien la force de l'alcool qu'il y a.
Oui.
Parce qu'il n'est pas dit que tout le monde va mettre de l'eau pétillante ou de l'eau plate. Ça se peut qu'il y ait des gens qui mettent de l'alcool. Et donc, ça aurait pour effet, prenez un scotch, par exemple, un scotch whisky ou une vodka qui est déjà à 40% d'alcool, versez cette poudre-là dedans, et là, vous venez de vous faire un alcool à 55-60%. C'est pas des farces, je veux dire.
Oui.
Encore une fois, là, c'est pas pour faire peur au monde, mais c'est objectivement, c'est ça.
Hubert Saissier, vous avez dit lors de précédentes entrevues qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque jeune, mais un parent. Comment on peut, et c'est vrai, je trouve que c'est très bien dit, comment on peut outiller les parents, les milieux scolaires face à ce nouveau produit qui n'est pas en vente encore légal au Canada? On ne sait pas s'il le sera, mais tout de même, s'il l'est aux États-Unis, et vous l'avez bien expliqué, il sera accessible via le web pour les jeunes ou des adultes également. Comment on peut qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en branle pour avertir les gens?
L'éducation, la sensibilisation. Écoutez, on a beau essayer de bannir des produits. Vous savez, à partir du moment où c'est sur le web, à partir du moment où c'est accessible par Internet, il n'y a rien que l'on puisse faire pour empêcher un produit de se déplacer, d'être transféré, transporté d'un endroit à l'autre. Il faut donc être vigilant, savoir, connaître le produit, savoir ce qu'est ce produit-là, qu'est-ce qu'il contient, quel est l'usage que l'on en fait. Il n'y a pas d'autre solution, on n'en connaît pas d'autres solutions. C'est véritablement la façon la plus sécuritaire, s'assurer que l'on a véritablement la connaissance du produit, que l'on n'est plus vigilant qu'on ne l'est avec l'alcool parce qu'il est plus facilement camouflable. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis il n'y a rien d'autre que ça, malheureusement.
Est-ce qu'Éduc'alcool prévoit lancer des campagnes de sensibilisation face à ce produit?
Écoutez, nous avons commencé à... On est dans un dilemme, et je vais être très franc avec vous. Le dilemme, c'est que plus tu en parles, plus tu lui fais de la publicité. Et donc, notre objectif, ce n'est pas vraiment de faire en sorte qu'il y ait davantage de publicité pour ce produit-là, parce qu'on considère que c'est vraiment une très mauvaise idée de le consommer. Mais d'un autre côté, c'est important de faire les mises en garde. Et donc, on fait à la fois les deux. On va faire avec le temps, en fonction de l'évolution de la situation. Pour l'instant, il n'existe même pas sur le marché, ce produit-là. C'est pour ça qu'on se sent plus libre d'en parler, parce que même si vous voulez en acheter, vous ne pouvez pas. Il ne sera pas accessible avant le mois d'août ou avant le mois de juillet ou le mois d'août. Donc, pour le moment, on peut en parler, parce que même si on donne des idées aux gens, il n'existe pas. À partir du moment où il va commencer à exister, à partir du moment où il va commencer à être accessible, là, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant et dépendamment du fait qu'il y ait ou il n'y ait pas un engouement pour le produit, eh bien, on ajustera nos tactiques d'intervention en fonction de l'une ou de l'autre des situations.
Oui, parce que ce que l'on sait, le palcool, hein, ce qu'on appelle l'alcool en poudre, là, oui, merci, c'est pas présentement en vente. On ne sait pas trop dans quel point de vente ça sera disponible, mais où l'alcool s'est permis, bien sûr. Et on ne sait pas encore si ça sera sur le site web des fabricants. Donc, on sait peu de choses, là. Vous m'apprenez que ça sera en vente au mois d'août. Donc, j'imagine que vous serez bien vigilant, là, pour la suite des choses.
Alors, vous pouvez être absolument certaine qu'on va suivre ça de très, très près parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de faire du terrorisme moral puis de faire peur aux gens et tout ça. Il s'agit simplement de nous assurer que les gens sont au courant, qu'ils sont informés, qu'ils savent ce qui se passe, qu'il ait les mises en garde qu'il faut. Et après ça, ultimement, une fois que notre travail aura été fait, les gens prendront leurs propres décisions et en subiront les conséquences, qu'elles soient agréables ou désagréables.
Hubert Saissier, vous êtes directeur général d'Éduc'alcool, éduc'alcool.qc.ca. Merci beaucoup.
Je vous remercie infiniment, ça a été très agréable.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Geneviève Laroche, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, l'organisme Jeune Pousse est voué à la promotion de saines habitudes alimentaires auprès des jeunes Québécois, et ce par le biais de différents programmes, dont un trésor dans mon jardin, dont vous êtes la coordonnatrice. Bon, avec le printemps qui s'en vient, comme je le disais, plutôt timidement tout à l'heure.
Oui.
Un trésor dans mon jardin, j'imagine que c'est un projet là, qui commence à prendre de l'ampleur, ou ça fait un petit bout que vous l'avez entamé?
En fait, l'organisme existe vraiment depuis 2006, donc ça fait un bon bout de temps qu'on travaille déjà à rapprocher les enfants de l'origine des aliments, notamment justement via le jardinage. Donc depuis 2006, on a développé, comme vous l'avez dit, deux programmes. Un programme qui s'appelle Un trésor dans mon jardin, puis qui met au centre vraiment l'implantation de potagers dans différents milieux de vie des enfants, mais qui travaille aussi l'alimentation, là, je dirais, sous toutes ses formes, dans tous ses contextes. On travaille vraiment tout au long de l'année à redécouvrir les légumes, la saisonnalité, à préparer le jardin aussi avec les enfants. Donc, c'est vraiment un programme qui fait le tour des dimensions aussi de l'alimentation.
Et puis, il y a un autre programme aussi d'éducation sensorielle au goût.
Oui, absolument, parce que, ce qui distingue l'organisme Jeune Pousse de plusieurs organismes qui travaillent en éducation alimentaire, c'est vraiment notre approche très concrète. Donc, on veut faire vivre aux enfants des expériences parce qu'on sait très bien que c'est comme ça que les enfants vont pouvoir apprendre et adopter peut-être de meilleurs comportements alimentaires, mais vraiment de les intégrer, non pas juste d'acquérir des connaissances. Donc, l'éducation au goût, ça parle beaucoup aux enfants parce qu'on sait qu'à la base, les enfants, leur rapport avec les aliments, la première chose qu'ils développent avec les aliments, c'est vraiment un rapport sensoriel. Donc, l'éducation sensorielle au goût, ça vise vraiment à travailler à la découverte alimentaire, mais par les sens. Donc, on amène les enfants à s'intéresser aux aliments, puis à les découvrir vraiment avec leur sens, et ça leur permet de développer une curiosité, d'avoir aussi un plaisir à bien manger, parce que c'est souvent ce qui manque. Il faut que ça soit plaisant si on veut vraiment changer les habitudes alimentaires des enfants.
Oui, c'est vraiment le plaisir que vous mettez de l'avant.
Oui, vraiment, c'est au cœur de tout ce qu'on fait, que ce soit en jardinant avec les enfants ou en travaillant l'éducation au goût. Pour nous, c'est la base. Si on veut, c'est quelque chose qu'on fait manger 3 fois par jour. Si on veut vraiment que les jeunes aient le goût de s'investir dans cette démarche-là, de cuisiner, il faut qu'il y ait du plaisir à le faire. Fait que c'est ce qu'on essaie d'aller éveiller chez les enfants.
Geneviève Laroche, lorsque l'on parle de jeunes, ça s'adresse à des enfants de quel âge à quel âge?
Oui, ben en fait, on touche différentes clientèles. On touche déjà les enfants là, de la petite enfance dans les CPE, puis les milieux de services de garde à la maison. Donc, je dirais à partir de 2-3 ans. On touche aussi toutes les jeunes des écoles primaires. Donc, là, on touche grosso modo là, de 5 à 12 ans. Puis, on intervient aussi dans les milieux de la communauté. Donc, ça peut être autant des HLM, des centres jeunesse, des milieux communautaires municipaux pour les camps de jour. Donc, on est vraiment une clientèle variée, là, mais je pourrais résumer à 3-12 ans, c'est notre clientèle principale, mais de plus en plus aussi, on tente de rejoindre les familles parce qu'on sait que tout ce que l'enfant va vivre dans ses milieux éducatifs, ben, il faut que ça se poursuive aussi à la maison si on veut que les changements soient réels et à long terme.
Et je pense que parfois même, vous invitez les parents à participer à vos programmes, à vos différents projets.
Oui, comme par exemple, dans plusieurs régions, on a développé des ateliers de diade par enfant. Donc, en éducation au goût, les parents viennent avec leur enfant vivre ce qu'on appelle des aventures du goût, parce qu'on présente toujours ça comme une aventure. Hein. La curiosité alimentaire, ben ça peut être présenté sous forme vraiment de plaisante, de petite aventure à vivre avec son enfant. Donc, les parents ont la chance de faire les mêmes découvertes alimentaires avec leur enfant, puis surtout de voir leur enfant dans un contexte où de leur donner en fait des exemples comment ils peuvent intervenir à la maison pour amener des nouveaux aliments, mais sans avoir à être dans la répression ou dans la chicane pour faire manger des légumes, de l'amener d'une façon plaisante qui peut justement enlever un stress aux parents lors des repas au quotidien.
On peut imaginer plusieurs impacts positifs à la découverte de ces sens-là, au jardinage aussi également, à la découverte de l'origine des aliments. Et je pense, entre autres choses, à l'estime de soi de l'enfant quand il voit tranquillement sa petite pousse là, sortir de la terre et produire aussi, que ce soit des légumes, par exemple, ça doit lui procurer beaucoup de fierté.
Ah, absolument. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est sans contredit, quelque chose qu'on voit beaucoup dans les milieux, cette fierté-là. Puis beaucoup de sens des responsabilités aussi. L'enfant qui a à prendre soin d'une plante, à semer, à prendre soin, ça donne beaucoup de fierté à l'enfant. Puis il va même prendre ce comportement-là, puis le réutiliser dans d'autres sphères de sa vie au quotidien. Là. Fait que c'est très riche à ce niveau-là. Puis je dirais aussi qu'au niveau social, les interactions entre les enfants, par exemple au jardin, c'est vraiment extraordinaire de voir comment prendre soin ensemble, en collectivité, pour les enfants. Ça développe aussi tout le côté interaction, la coopération beaucoup aussi. Et puis, dans l'éducation au goût, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse hein, quand on mange puis qu'on goûte des aliments. Ouais. Ben, vous et moi, on ne goûte pas la même chose, on n'a pas les mêmes préférences. Donc, on enlève le côté peut-être, je vais me sentir jugée, parce que là, chacun exprime ce qu'il est, mais l'exprime, mais est conscient qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, donc il ne peut pas être jugé à partir de ça. Fait que c'est très riche aussi au niveau de la socialisation de l'enfant.
Et il n'y a pas cet engouement-là pour la cuisine également. J'imagine quand on voit son plant de tomates ou de poivrons, on a envie de se demander qu'est-ce que je fais avec ça.
Ah oui, absolument. Puis c'est ce qu'on développe, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus complet que juste jardiner avec les enfants. Quand on travaille avec eux, on essaie vraiment de faire le lien entre la terre et la table, si on veut. Puis c'est sûr qu'une fois que l'enfant a cultivé un brocoli, par exemple, qui est souvent un légume moins apprécié des enfants, mais quand il l'a vu en graines, qu'il l'a entretenu, qu'il l'a vu grandir, qu'il prend conscience aussi que le brocoli, en fait, ce qu'on mange, les petits bourgeons qu'on mange au bout, c'est des fleurs en devenir. Je vous jure que les enfants ont regardent d'une toute autre façon dans leur assiette et ont envie de le cuisiner, ont envie de le manger. Fait qu'un légume qui parfois est boudé devient la réussite de l'assiette, si on veut. Fait que oui, la cuisine fait partie de la démarche, absolument.
Geneviève Laroche, il y a des directeurs ou des enseignants ou des parents qui nous écoutent, comment ils peuvent faire appel au service de Jeune Pousse?
Ben, dans le fond, tout simplement, là, juste déjà en cherchant sur Internet jeunepousse.ca, ils vont voir tous les services qu'on peut offrir, ils peuvent nous contacter directement pour savoir un petit peu ce qu'on peut leur offrir, là, mais entre autres pour les écoles, les CPE, on offre de la formation et du matériel pédagogique pour que eux, ça soit très simple de pouvoir implanter nos programmes dans leur milieu, à leur manière aussi, de donner leur couleur, parce que c'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne en transfert, en formation, si on veut, pour que il y ait des milieux à travers la province qui s'approprient, qui jardinent avec les enfants, qui s'approprient l'approche de l'éducation au goût. Puis on peut dire que ça porte déjà fruit parce qu'il y a déjà 15 régions du Québec qui participent à nos programmes puis qui ont eu de la formation. C'est au-delà de 1250 intervenants qui ont été formés jusqu'à présent. Donc je peux dire que ça porte fruit.
Je vous arrête ici, Geneviève Laroche. Vous êtes coordonnatrice du programme Un trésor dans mon jardin de l'organisme Jeune Pousse. On laissera bien sûr votre site sur le nôtre. Et puis je vous souhaite à vous et à votre équipe un très beau printemps.
Bien, merci, puis à vos études de jardinage.
Au revoir, Geneviève.
OK, merci, bye-bye.
À demain, tout le monde. Bye-bye.